France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
Nous avons parlé féminicide et violences conjugales toute la journée sur France Inter à l'occasion de l'ouverture du Grenelle cet après-midi. Nous avons entendu les premières concernées, celles qui ont peur, celles qui hésitent à partir, celles qui ont subi, celles qui peut-être subiront encore les coups de leur mari ou de leur conjoint. Nous avons entendu ceux qui travaillent sur ces questions, leurs critiques parfois virulentes, leurs impatiences, leurs attentes. Ce soir, les mesures ont été annoncées, on les a détaillées, on le refera et les discours, les tables rondes devons pouvoir continuer jusqu'en novembre. Pour en parler avec nous, au bout de la chaîne, si je puis dire en quelque sorte, avec vos questions, vos témoignages, vos craintes encore peut-être, le chemin parcouru et ce qui reste à faire, pour en parler avec vous donc et poser vos questions, Marlène Schiappa est avec nous. Bonsoir Madame Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Merci d'être avec nous, les questions sont pour vous, c'est parti, bienvenue.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Marie, c'est vous la première, soyez la bienvenue et on vous écoute.
Oui, bonjour.
Bonsoir. Bonsoir Marie.
Bonjour, bonsoir. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Voilà, je voudrais intervenir pour évoquer brièvement mon histoire et surtout pour que les choses puissent changer pour toutes ces femmes victimes de violences. Donc j'ai été victime de violences conjugales, battue, projetée sur le sol, je vous passe les détails. Je suis allée chez les gendarmes qui m'ont dit de quitter mon domicile. J'ai vécu cachée avec mes enfants pendant 2 mois jusqu'à l'ordonnance de protection et l'obtention du téléphone grave danger. Donc déjà, c'est un délai qui est beaucoup trop important et sans les amis, on ne peut pas survivre. Mon conjoint est écopé d'un sursis mis à l'épreuve pour 2 ans et quand il est parti en métropole, j'ai rendu mon TGD, mon téléphone grave danger. Il y a 2 semaines, le juge d'application des peines m'informe de sa venue pour 3 mois sur l'île de La Réunion. Le jour même où il a perdu en appel, je suis donc extrêmement paniquée, interloquée. J'ai peur. J'ai averti l'association de victimes qui me suit. En 2 jours, j'ai eu un téléphone grave danger. J'ai écrit au juge d'application des peines pour lui expliquer mon désarroi et mon incompréhension. Je demande une interdiction de territoire puisque j'habite sur une île et que la distance me protège. Je n'ai aucune réponse depuis 3 semaines. Mes collègues ont fait une pétition, mes amis, ils ne savent plus comment me protéger. Aujourd'hui, tous mes collègues se sont habillés en blanc pour me soutenir, moi et ma famille, moi et mes enfants. Voilà, c'est mon histoire, c'est l'histoire de plein de femmes que j'ai rencontrées. Et voilà, je voulais vous soumettre ça, je crois que c'est important de penser à l'interdiction de territoire.
Merci beaucoup Marie pour ce témoignage, merci pour cette entrée en matière, merci du courage de témoigner aussi parce que c'est pas facile et de faire partager ce témoignage avec nous qui forcément résonne, j'imagine, aux oreilles de beaucoup d'autres femmes. Marlène Schiappa, il y a beaucoup de choses au-delà de l'émotion dans le témoignage de Marie. L'éloignement, on est dans un cas d'école, mais ça arrive, il y en a plein des cas d'école, hein, il y a une série de cas d'école. L'éloignement quand on est sur une île, comment ça marche ? Sérieusement, comment on peut faire pour aider Marie là ?
Ouais, absolument. D'abord, merci rapidement à France Inter parce que le travail des médias sur la prise de conscience dans le cas des violences conjugales est important et je pense qu'il faut le dire. On le souligne quand il y a des articles qui rangent les féminicides dans les faits divers, qui parlent de drames passionnels, etc. Il faut le souligner aussi quand il y a un travail de sensibilisation qui est mené par votre antenne et par d'autres. Ensuite, merci à Marie pour votre témoignage parce qu'effectivement, ce que vous vivez est... absolument atroce d'abord dans ce que vous vivez en tant que victime de violences conjugales d'une part, mais d'autre part ensuite dans la prise en charge qui est, d'après ce que vous nous dites, trop légère manifestement. On voit là qu'il y a des questions que vous posez qui sont restées sans réponse, des contacts que vous prenez auprès du JAP et d'autres qui sont restés sans réponse et ça n'est pas admissible. Plusieurs choses pour vous répondre. D'abord sur la question de l'engagement des gendarmes. Moi, je vais dans votre sens. J'étais ce matin au 39-19 avec le président de la République et le président a pris un casque pour entendre la conversation entre l'écoutante du 39-19 et la femme qui appelait. Et cette femme, elle était dans une gendarmerie et confrontée à un gendarme qui a refusé de l'accompagner jusqu'à chez elle pour récupérer ses affaires. Et il disait à l'écoutante, moi, c'est pas que je veux pas, mais c'est pas marqué dans le code pénal. Ça nous montre à quel point il y a des efforts qui ont été faits, mais à quel point il y a un travail qui reste à faire sur l'accueil dans les commissariats. Donc tout à l'heure, le Premier ministre a annoncé d'abord un audit qui sera mené à l'aveugle, en anonyme, sur 400 commissariats et gendarmeries pour évaluer justement cet accueil dans les commissariats. Et ensuite, un guide d'outils qui sera mis pour faire en sorte que sur tous les territoires, on ait... l'accueil ne dépende pas du bon vouloir de tel ou tel membre des forces de l'ordre.
Et honnêtement, est-ce qu'on a besoin d'un audit parce qu'on les sait, ces dysfonctionnements, ils existent, des témoignages de ce genre, il y en a beaucoup. Et de toute façon, j'imagine que chaque policier, gendarme qui nous entend a besoin d'avoir peut-être des clés, un certain nombre de repères. Pourquoi on perd du temps finalement avec un audit? Pourquoi pas y aller directement avec la boîte à outils?
Moi, je crois que ce n'est pas une perte de temps. D'abord, je voudrais quand même, à un moment, on peut toujours trouver que rien est assez rapide, rien est suffisant, etc. Là, je veux dire, on a eu quand même un engagement aujourd'hui à Matignon. C'est la première fois dans l'histoire de la République française que vous avez à Matignon, autour du Premier ministre, 12 membres de gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur, qui passent quasiment la journée à travailler avec les victimes elles-mêmes en direct, avec les représentants des forces de l'ordre, les associations, etc. Cet engagement de mener un audit, c'est une demande des associations qui existe de longue date pour avoir une réalité objective, qui nous permettent de savoir exactement quels sont les dysfonctionnements. Et puis ensuite, nous allons travailler ensemble. Et c'est ça le but du Grenelle. C'est que le gouvernement ne fait pas les choses dans son coin. On travaille avec les victimes, avec les associations, avec tous les acteurs pour construire ces guides et surtout, très pratique, un outil d'évaluation du danger. Les associations l'ont. La FNSF, le 3919, elles ont un outil pour évaluer le danger. Est-il imminent? Est-il grave? Etc. etc. Il faut que les forces de l'ordre puissent en disposer pour que ça facilite aussi leur travail.
Je voudrais qu'on écoute Daniel autour de ces questions-là. Bonsoir Daniel.
Bonsoir.
On vous écoute.
Pardon, je voulais poser cette question à Mme Schiappa. Je voudrais que vous m'expliquiez, je voudrais que vous expliquiez plutôt à toutes celles qui vous écoutent quelle est la raison objective qui fait que des enfants, des mères soient obligés de quitter leur maison, leur appartement, leur chambre, leurs jouets, leurs amis, leurs écoles, les associations sportives qu'elles fréquentent ou qu'ils fréquentent, alors qu'ils ne sont coupables d'aucun fait.
Merci Daniel. Une question qui revient souvent, vous l'avez sûrement entendu ce matin aussi sur l'antenne avec Monsieur Frenu, Madame Schiappa. Pourquoi ce sont les femmes qui partent? Alors dans l'urgence, je peux comprendre. Quand on part avec son môme sous le bras, ça c'est l'urgence. À quel moment on peut pas inverser tout simplement la situation? Alors, c'est lui qui s'en va.
Bien sûr, il y a deux cas de figure différents. Là, on est en train de parler. D'abord, merci à Daniel pour cette interpellation. On est en train de parler de la question de l'éviction du conjoint violent. Cette éviction du conjoint violent, elle est prévue dans la loi, mais elle est rarement appliquée pour plusieurs raisons. D'abord parce que elle doit survenir sur décision de justice. C'est pas l'homme violent qui de lui-même se dit ah c'est vrai quand même je comprends pas très bien je vais partir et qui fait ses valises. Il faut qu'il y ait une décision de justice. Or les délais de la justice sont longs à l'heure actuelle, trop longs sur ces sujets-là. D'ailleurs, c'est pour ça que Édouard Philippe s'est engagé à ce qu'il y ait un délai de 15 jours pour ces sujets-là dans les chambres d'urgence qui seront expérimentées. Mais donc, il y a besoin d'une décision de justice.
Mais on peut raccourcir ce délai-là.
On peut le raccourcir, c'est pour ça qu'on s'engage.
C'est ce qu'on fait dans certains départements d'ailleurs.
Bien sûr, et c'est pour ça qu'on s'engage à 15 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte, 15 jours de délai de traitement, VS des mois, parfois des années qui existent actuellement, c'est un engagement majeur, ce sera expérimenté à Créteil. Ensuite, moi, ce que certaines associations me disent, et moi j'ai été élue locale en charge de ces questions pendant des années, et avant j'étais présidente d'une association de femmes pendant plus de 10 ans, donc des sujets comme ça, des femmes, j'en ai accompagné par centaines, pour pas dire plus. Il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles ne veulent pas rester dans l'appartement ou dans la maison où se sont produites ces violences. Ce matin, au 39-19, là où j'étais avec le président, il y a une femme qui nous a dit « Moi, j'ai été égorgée sur mon lieu de travail. Il est hors de question que je retourne dans le lieu où j'ai été égorgée. » Et une autre nous avait dit la semaine dernière qu'elle, elle a été, son conjoint a tenté de la brûler devant ses enfants. Elle ne veut pas retourner dans la cuisine.
De ce que je comprends, c'est que ce qu'elle veut, c'est avoir le choix. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment le choix. C'est elle qui sort.
On s'organise pour qu'il y ait le choix. Ce matin, tout à l'heure, le Premier ministre a organisé quelque chose qui est assez révolutionnaire. C'est-à-dire que l'État va se porter garant pour que les femmes victimes de violences conjugales puissent retrouver un logement. C'est la garantie VISAL qui s'appelait LOCAPAS quand on était jeune. Maintenant, ça s'appelle VISAL et cette garantie, elle va être étendue par le ministre du Logement aux femmes victimes de violences conjugales. Et c'est extrêmement important.
Les fameux logements,
il y a un engagement de 5 millions d'euros derrière.
Les fameux logements d'urgence dont vous parlez, il y en a un certain nombre qui avaient déjà été promis, donc 250 si je ne m'abuse, oui. 750 de plus, ça fait 1000
240.
En tout. Quand? Puisque ce qu'on entend aussi de la part des associations, c'est les fameux premiers 250, pour l'instant on ne les a pas vus. Quand c'est quand?
Moi j'ai entendu le quand c'est quand. D'abord, je rappelle que ce que j'évoque là, ce n'est pas un logement d'urgence. L'État se portera garant pour que ces femmes aient un logement pérenne. Sur les logements d'urgence, effectivement, j'ai entendu comme vous sur une antenne, une association dire ces 240 places, une personnalité, plutôt une ancienne comédienne, dire ces 240 places promises, elles n'existent pas. Je ne sais pas sur quoi on se base pour dire ça, parce que moi j'ai passé du coup le week-end à contacter les différents représentants et les différents fonctionnaires en charge des administrations. J'ai sous les yeux un tableau, je l'ai montré dans plusieurs antennes, mais je l'ai là sous les yeux, et il y a, à partir du 1er août, une création de 279 nouvelles places. Et avant, du 1er janvier au 31 juillet, 305 places. On est donc sur un total de 5715 places. Ce sont les remontées de la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les administrations qui le disent. Donc ces places, elles existent bel et bien. Je refuse qu'on nous accuse de mentir ou d'annoncer des places qui ne sont pas créées alors qu'elles sont justement créées. Est-ce que c'est suffisant ? Non, je vous le dis, ça n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle de nouvelles places ont été annoncées.
Qui sont ouvertes à un moment, dans un délai de
plusieurs mois, d'ici la fin de l'année. Mais surtout, je voudrais insister sur la question vraiment de la qualité de l'hébergement.
Si, annoncer, je vous en prie.
Oui, non, je suis un peu fatiguée. On était un peu sous tension ces dernières semaines sur le Grenelle des violences conjugales. On a énormément travaillé, donc excusez-moi pour ce lapsus. Mais je voudrais insister sur la question de la qualité de l'hébergement. Je suis allée au mois d'août rendre visite au FIT, au foyer Une Femme, Un Toit. Il y a une femme qui m'a dit qu'elle avait fui l'endroit où elle vivait pour cause de violences conjugales. Elle va dans un hôtel social. Mmh. Le premier soir, elle est violée par le gardien de l'hôtel social. Il y a des conditions d'hébergement dans les hôtels sociaux qui parfois sont très bonnes et parfois sont désastreuses. Moi, je ne veux pas envoyer les femmes vers les hôtels sociaux.
Non, je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais le nerf de la guerre dans ces cas-là, effectivement, c'est l'argent et c'est le premier reproche qui vous a été fait. Où est l'enveloppe ? Si on compare, on a beaucoup comparé, notamment avec des pays comme l'Espagne ou comme l'Italie, on aurait tort de penser que les pays les plus latins sont les pays qui ont le plus de difficultés. C'est nous qui sommes en difficulté sur ces questions-là. 200 millions par an en Espagne, 5 millions ici pour nous.
La différence est quand même... C'est pas 5 millions.
5 millions en plus.
Ouais, et eux, c'est pas 200 millions en plus, c'est 200 millions en tout.
Oui, c'est 200 millions par an.
Tout à l'heure, le Premier ministre l'a dit, les 1 milliard d'euros mythiques de l'Espagne, d'abord, ils ne sont pas engagés. C'est un engagement théorique des partis. Même Mariano Rajoy, qui n'est pas un féministe radical, a dit à plusieurs reprises que ce 1 milliard d'euros, il n'avait pas été dépensé. Et ensuite, le Premier ministre lui-même l'a dit tout à l'heure, si on veut faire comme l'Espagne et compter en additionnant absolument tout ce qui est fait sur ce sujet, on arrive au-delà de 2,5 milliards en France sur le quinquennat. En Espagne, c'est 1 milliard sur 5 ans.
2,5 milliards uniquement sur les violences conjugales ?
Non, sur l'égalité femmes-hommes, mais en Espagne, c'est pas 1 milliard sur les violences conjugales.
Non, mais on parle pas du milliard, je parlais pas du milliard, je parlais de 200 millions par an réservés aux violences conjugales.
Mais même dans ces cas-là, on arrive sur la somme du quinquennat, on divise par 5 et on arrive sur cette somme-là. Le mode de calcul de l'Espagne, c'est celui-là. Moi, ce que je vous dis, c'est que l'argent, ça n'est pas une fin en soi. L'argent, c'est un moyen au service de quelque chose. Par exemple, pour que l'État se porte garant pour les femmes, ça va représenter un engagement de 5 millions d'euros. Après, si vous voulez, on peut calculer le salaire des procureurs spécialisés annuels. Et je ne sais pas à quelle somme on arrive, mais là, on additionne des choux et des carottes.
Mais
je peux vous donner un chiffre, mais ce sera un chiffre en l'air.
Je vous entends, vous dites qu'il y a un problème de méthode plus qu'un problème de moyens. Au fond, en creux, c'est ça que vous dites.
C'est tout à fait ça. Par exemple, sur les téléphones graves danger, les moyens sont là. Les téléphones graves danger sont payés. Je me suis assurée que leur financement soit pérennisé. Sauf que j'ai découvert que la plupart d'entre eux étaient dans un placard.
Alors,
n'étaient pas attribués.
Moi, j'ai un chiffre qui dit 837 déployés, 2/3 non attribués.
Mais tout à fait. Ce chiffre est correct et c'est moi qui l'ai sorti. Parce que j'ai voulu justement sortir la poussière qu'on mettait sous le tapis depuis trop d'années. On a accepté pendant trop longtemps d'avoir sur les violences conjugales des politiques publiques qu'on lance ici ou là, plus 300 places, plus 200 téléphones graves danger et de ne pas s'occuper des résultats et de l'attribution réelle sur le terrain. C'est le sens de ce Grenelle des violences conjugales.
Alors, avec les associations, évidemment, je voudrais qu'on écoute Amal sur ce sujet. Bonsoir Amal.
Oui, bonsoir.
Bonsoir
Madame Schiappa et à tous les invités autour de la table. Je vous ai contacté parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse profondément et sur lequel je réfléchis beaucoup, car j'ai vécu cette situation d'un divorce dans le cadre de violence, et donc j'ai pu expérimenter à tous les niveaux les difficultés que peut rencontrer une femme, et vraiment c'est effrayant. Il faut vraiment s'armer de courage, et ça suffit pas le courage parce qu'on n'a pas assez de relais. Et là aujourd'hui, la question que je me pose et ce que je trouve un petit peu inquiétant dans ce qui est annoncé, c'est de quels moyens vont disposer les associations existantes. Mais par exemple, moi, je veux créer une association. Alors, donc là, je vous interpelle directement, Madame Schiappa. Je veux créer une association demain. Enfin, demain, c'est une façon de parler, bien entendu. Mais ces jours-ci, en tout cas, j'y réfléchis activement. J'ai déjà listé tout ce que je pouvais trouver actuellement qui existe là où j'habite, donc Aix-en-Provence. Donc, j'ai balayé un petit peu large. Il n'y a pas grand-chose, voilà. Moi, j'ai moi-même été dans des associations, les gens ne sont pas disponibles, il y a très peu de permanence, ils ont très peu de moyens, ils ne sont pas toujours au courant. Alors déjà, la première étape, on part de chez soi, on veut voir un avocat, on travaille pas parce qu'on vient d'accoucher, c'était mon cas. Voilà, donc on n'a pas de moyens, on n'a pas de ressources, et puis on vivait avec quelqu'un avec qui on était dans une profession libérale, donc voilà, avec des statuts associés dans une entreprise, etc. Donc il n'y a plus d'argent. Voilà, faisons simple. Comment fait-on ? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Les avocats qui travaillent à l'aide juridictionnelle, on vous donne un listing, il y a 200 noms. Donc 200 noms, il faut les appeler un par un. faut que ça réponde, faut qu'il vous rappelle. Enfin, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible déjà. C'est la première étape. Ça, c'est déjà décourageant. Bon, moi, j'ai quand même fait cette démarche. J'ai eu de la chance qu'au bout du 10 ou du 12e, ça a fonctionné. J'ai pris rendez-vous. On m'a demandé une enveloppe. Alors voilà, on me dit oui, on prend la J, mais quand je suis arrivée, on m'a dit oulala, c'est compliqué votre histoire. Moi, si vous me donnez pas 1 500 € en espèces, je ne vais pas pouvoir vous défendre, madame, sinon il faut vous adresser à quelqu'un d'autre. Mmh. Bah, quand on est désespéré, on est prêt à faire tout n'importe quoi. Mais déjà, ça, c'est le premier problème. Donc, des avocats qui soient honnêtes et un listing qui soit actualisé. Ensuite, l'histoire de l'éviction du conjoint, moi, je rejoins complètement ce qui a été dit. Parce que moi, je ne voulais pas partir de chez moi. C'est juste que j'ai pris peur et que pour protéger mon enfant qui n'avait que 2 mois, je ne suis pas rentrée chez moi le jour même. Mon ex-mari m'avait envoyé des photos de mes placards vidés comme si j'avais quitté le domicile alors que j'étais juste partie chez ma sage-femme.
Et après, c'était trop tard. C'est ça que vous dites à mal, en fait.
Ah bah après, bah lui, une fois qu'il était dans la maison, bah moi, je pouvais plus revenir. Mmh. Donc, j'ai quand même envoyé un mail en disant bah je ne pourrais revenir que si tu quittes les lieux. Il a refusé de partir. Mmh. C'est une maison qu'on a acheté tous les deux, donc je paye moi aussi. Mmh. C'est pas le propos, c'est pas une location,
etc. Et qui est-ce qui a gardé la maison maintenant? C'est vous,
eh
bah, ou lui?
Écoutez, moi, de toute façon, j'ai plus osé revenir. Donc, il a gardé la maison, on est passé au tribunal. Alors, 3e étape.
Vous avez été...
L'avocat va voir le juge en demandant une ordonnance de protection, une éviction du conjoint. Bah, écoutez, vous savez pourquoi ça a été refusé? On était en plein mois de décembre, donc avec un bébé de 2 mois, comme je vous le dis. La dame a dit, bah, écoutez, elle n'est pas violentée physiquement. Il y a des cas plus graves que le sien, elle n'a qu'à se trouver un appartement.
Et où est-ce que vous êtes logé maintenant, si ce n'est pas indiscret?
Non, mais ça, cette histoire-là, c'était il y a 4 ans, madame. Et ça fait 4 ans que je...
Et vous avez été logé quand à ce moment-là, il y a 4 ans?
Là, j'ai été chez des amis. À cette D'accord. époque-là, je suis partie chez des amis. Donc, c'est très pratique de partir avec un bébé de 2 mois chez des amis. Ouais. Et on ne sait même pas combien de temps va durer cette histoire.
Et pour vous remettre sur vos pieds, Amal, pour vous remettre sur vos pieds, au fond, et d'avoir un endroit à vous, ça a pris combien de temps?
Eh bien, écoutez, ça a été en plusieurs étapes. Donc, j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai quand même été aidée par la famille. Donc, ça, c'est vrai que c'est un ressort important, l'entourage. Mais j'ai eu de la chance aussi parce qu'on a trouvé un appartement à Lyon. Parce que je suis partie pendant quelques temps de D'accord. ce côté-là vers ma famille. Et puis, je suis revenue parce que monsieur a quitté les lieux. Il avait des ennuis fiscaux, etc. Il a préféré prendre la poudre d'escampette. Et puis, finalement, donc j'ai pu réintégrer le domicile et j'ai demandé à l'attribution du domicile. Mais si vous voulez, je me suis retrouvée dans une situation pendant 1 an, avec donc un bébé en très bas âge, comme je le répète sans relâche. Et c'était vraiment problématique parce que quand on a un bébé dont on doit s'occuper toute la journée et qu'on est dans cette situation où il y a très très peu d'aide...
Et c'est compliqué d'aller... Ouais. Et quand on a un bébé à s'occuper de si près, pardon de vous couper à mal, mais il y a beaucoup d'appels, donc je voudrais vraiment qu'on ait le temps d'écouter des femmes comme vous et d'entendre la réponse de Madame Schiappa. Ce que nous dit Amal, Marlène Schiappa, c'est le démarrage, la mise en place, tout ça est extrêmement difficile. On ne sait rien quand on est une femme dans cette situation-là et on peut comprendre pourquoi on ne sait rien. Comment on facilite? Est-ce qu'on peut, grâce à vous, grâce à ces mesures, grâce au Grenelle, faciliter le parcours d'Amal ou d'une autre Amal?
C'est un parcours de la combattante et qui demande énormément de courage. Moi, ce qui me frappe à chaque fois que j'entends des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, c'est le courage dont elles ont fait preuve pour réussir à se sortir de cette situation.
Mais là, typiquement...
Sur les questions, il y a plusieurs sujets qui sont soulevés. Par exemple, sur la question, vous parliez de la question des avocats, de l'aide juridictionnelle, de l'avocat qui demande à être payé en liquide, etc. On a eu un témoignage assez similaire au Grenelle des violences conjugales tout à l'heure. Il y a un engagement de l'ordre des bâtonniers. Et les bâtonniers sont représentés dans le cadre du Grenelle des violences conjugales et le groupe de travail sur la justice s'engage à partager justement des pratiques sur ce sujet-là. Mais plus globalement, moi ce que je dirais c'est que il y a une prise de conscience de l'ensemble des professionnels à mener pour prendre au sérieux les femmes victimes de violences conjugales. Ce que vient de dire Amal, la phrase « il y a plus grave que vous, c'est pas grave, en gros tant que vous n'êtes pas morte », Julie Douib elle avait dit 2 jours avant de mourir « il faut que je meure pour qu'on me prenne au sérieux ».
Donc ça veut dire que on va faire, vous l'avez dit, un audit auprès des policiers, auprès des gendarmes, mais ça veut dire que cette même démarche-là, elle est obligatoire et elle doit être faite, mais auprès de tous les personnels de justice, au fond.
Absolument,
on parle des
avocats,
on parle des juges, on parle d'autres aussi.
Mais tout à fait, il y a une inspection qui a été lancée par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, justement, sur tous les féminicides qui ont été jugés, pour voir à quel moment il y a eu des dysfonctionnements dans la chaîne pénale et à quel moment quelque chose ne s'est pas produit. Moi, ce que je refuse d'entendre, c'est, non mais tout tout a bien fonctionné, tout le monde a fait son travail. Ça n'est pas vrai. Je ne dis pas, je ne blâme pas un tel ou un tel, mais il y a des moments où il n'y a pas de réponse qui soit apportée par cette procédure et ça n'est pas acceptable.
Et puisqu'on parle des réponses pénales et du groupe pénal donc qui va discuter jusqu'au mois de novembre dans ce Grenelle, qu'est-ce qu'il en est des sanctions pénales? Est-ce qu'elles sont augmentées? Est-ce qu'elles sont changées? Est-ce qu'elles sont modifiées?
Alors, on a augmenté l'année dernière les sanctions pénales sur les violences conjugales. C'est passé totalement inaperçu. C'était début août, mais d'abord, on a augmenté la circonstance aggravante quand les violences sont commises en présence d'enfants. Le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, un homme qui frappe la mère de ses enfants n'est pas un bon père, ce n'est pas vrai. Donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, nous avons inscrit dans la loi les couples qui sont dits non cohabitants, c'est-à-dire les couples qui ne vivent pas ensemble. Vous avez beaucoup de jeunes, très jeunes, de personnes très âgées aussi, mais aussi de personnes très jeunes qui sont victimes de violences conjugales, qui ne cohabitent pas. Et parfois, il y a des difficultés au moment de la plainte, etc. Pour cette raison, nous avons fait évoluer la loi l'an dernier pour faire en sorte justement que ces peines soient vraiment prises en compte.
Avant de revenir au standard et écouter d'autres témoignages, on a ce mail sur franceinter.fr qui nous dit: au Canada, il existe des peines qui incluent pour les hommes violents la nécessité d'assister à des groupes de parole obligatoires pour tenter de se soigner. Qu'est-ce qui se passe chez nous, en France, après la peine, y compris lorsqu'il y a eu peine?
Trop peu de choses. C'est vraiment un angle mort des politiques publiques parce que ce n'est pas la culture française. L'an dernier, je vous donne un exemple pour dire qu'on est en train de changer de paradigme. L'an dernier, dans le cadre de la loi contre le harcèlement de rue, j'ai mis en place des stages obligatoires pour les hommes qui ont été reconnus coupables de récidive de harcèlement de rue. Il faut faire la même chose sur les violences conjugales. La prise en charge des auteurs de violences conjugales, des agresseurs, elle n'est pas assez forte. Et ça, toutes les victimes nous le disent et nous le réclament. Donc nous allons y travailler. Il y a un groupe de travail spécifiquement dédié sur la question de la santé et un autre sur la question des violences post-séparation qui vont faire des propositions concrètes sur ce sujet-là.
Mathilde, pardon, je vous ai fait patienter pendant beaucoup trop longtemps. Allez-y, on vous écoute. Mathilde, vous êtes là?
Oui.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Je suis donc Mathilde. Je suis la maman d'Isabelle, qui est victime de violences conjugales. Je pensais important de vous appeler pour montrer l'importance des petits signaux qui peuvent passer inaperçus sur le moment, mais qui, après coup, pour l'entourage, ben c'est un grand flash, quoi, parce qu'en fait, ça en disait beaucoup. Il faut savoir qu'Isabelle est partie au loin pour son travail, donc elle s'est retrouvée isolée d'un point de vue familial, d'un point de vue amical et d'un point de vue géographique. Et c'est là-bas qu'elle a rencontré son bourreau. Sur le moment, quand on l'a rencontré, quand elle nous l'a présenté, il y avait un côté rassurant pour tout le monde. C'était quelqu'un de grand, baraqué, jovial, blagueur, enfin bon vivant. Et donc en fait, des petits signes autour de la jovialité, tels que quand on le voyait, un petit verre d'alcool, deux petits verres d'alcool, on mettait ça un petit peu sur le côté, de la convivialité sur le moment. On s'est aperçu que on avait moins de contact avec Isabelle. Elle était de plus en plus isolée. Isolée de nous, ses parents, alors qu'on avait des contacts fréquents, isolée de ses sœurs, isolée de la famille, de ses amis qui n'avaient plus de nouvelles, isolée de son logeur, de son employeur, qu'elle devenait tristounette, et puis paradoxalement qu'elle devenait plus protectrice vis-à-vis de la famille. Et quand elle est tombée enceinte de son bourreau, c'est là qu'on s'est aperçu que les choses se sont aggravées. C'est-à-dire qu'il la surveillait de plus en plus sur sa façon de s'habiller, de savoir à qui elle parlait, si elle sortait plus de 10 minutes, parce qu'elle avait un petit chien, si ça durait plus de 10 minutes, le téléphone sonnait pour savoir où elle était. Enfin, voilà, des petits signes d'alerte qui, sur le moment, peuvent passer inaperçus.
Et Mathilde, pardon de vous presser, à un moment...
Je vais simplement dire que la vie de ma fille, elle tient 60 euros. C'est le prix d'un téléphone portable qui lui a permis de faire appel au secours. Parce qu'en fait, il voulait la noyer, lui couper la tête et la mettre dans le congélateur pour pas qu'on puisse faire le deuil. Et donc, quand la BAC est intervenue, nous, on est intervenus après pour récupérer Isabelle. Il faut savoir qu'on nous présente on nous dit porter plainte, c'est la démarche la plus difficile à faire pour les femmes victimes. C'est vrai que c'est une démarche qui n'est pas facile, mais je serais tentée de dire que c'est à partir de là que le parcours du combattant commence pour les victimes et pour l'entourage. Parce qu'en fait, porter plainte, c'est aussi parole contre parole. Et donc les preuves qu'on peut avoir, telles que des enregistrements audio, des enregistrements vidéo, c'est pas recevable. On nous répond à la gendarmerie que ça risque de se retourner contre vous, qu'il peut vous accuser de harcèlement. Isabelle a une ordonnance de protection. Il faut savoir que l'ordonnance de protection, elle n'est pas transmise à la police ou à la gendarmerie du lieu de domicile de la victime. Donc, la gendarmerie dit simplement, vous avez une ordonnance de protection, c'est bien, vous l'avez sur vous, c'est important. On fait voler en éclat la législation actuelle fait voler en éclat toutes les mesures de protection de l'entourage et que les dispositifs qui existent mettent en place, à savoir pour rejoindre le témoignage qui a été dit là tout à l'heure, la personne qui est partie, qui a été victime il y a 4 ans à peu près, qui a été hébergée donc en famille ou chez des amis, il faut savoir que une personne, un auteur qui n'est pas déchu de son autorité parentale a le droit de connaître le lieu de résidence de son enfant. Donc on fait voler en éclat toutes les mesures de protection.
Mathilde, pardon encore une fois de vous interrompre. Je voudrais vraiment qu'on puisse écouter les gens qui nous appellent. On a entendu ce que vous nous dites. Merci pour votre témoignage et surtout pour les nombreuses informations qu'elles comportent sur les dysfonctionnements. Vous parlez de l'audit tout à l'heure, Marlène Schiappa, mais les dysfonctionnements, ils sont là. Ils sont devant nous. C'est Mathilde qui nous les donne.
Merci,
à tous les niveaux, effectivement. Niveau gendarmerie.
Bien sûr, je vais vous répondre parce qu'on a des solutions derrière. Bien sûr, on a des solutions à apporter à quasiment tout ce qui a été pointé du doigt par Mathilde. D'abord, le phénomène que Mathilde a très bien décrit, c'est celui de l'emprise et de l'isolement qui souvent précède les violences psychologiques ou conjugales. Le Premier ministre l'a dit fermement tout à l'heure, je crois que c'est la première fois qu'un Premier ministre à Matignon le dit, il y a des hommes qui ont du mal à accepter l'altérité et donc qu'ils vivent avec une personne qui est non pas leur objet mais qui est une personne. Et cela, ça doit cesser. Voilà les mesures concrètes. D'abord, sur la question de l'autorité parentale. Vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est incroyable de se dire qu'il y a des hommes qui gardent l'autorité parentale après avoir tué la mère de leurs enfants. Nous allons faire évoluer les dispositions législatives à cet égard. Le Premier ministre en a pris l'engagement tout à l'heure. Il faut que l'autorité parentale ne soit plus permise pour les auteurs de féminicide et il faut qu'elle soit
mais
largement...
pas seulement féminicide.
Bien sûr,
lorsqu'il y a eu violence conjugale, qu'est-ce qu'on fait des enfants ?
C'est ce que j'allais dire. Il faut que plus largement sur la question des violences conjugales, l'autorité parentale soit mise dans la balance et nous allons modifier la loi pour cela. Ensuite, vous dites que les ordonnances de protection ont leurs limites. Vous avez raison. D'abord, nous avons voulu qu'il y en ait plus, mais comme vous le soulignez, elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous travaillons sur les bracelets d'éloignement qui vont permettre justement cette alerte immédiate dès lors que vous avez un homme qui s'approche. Et ces bracelets d'éloignement, ils seront distribués en présententiel, c'est-à-dire avant même qu'il y ait une condamnation. Dès qu'il y a une enquête,
on est d'accord qu'ils existent déjà.
Non, ils n'existent pas en France.
Ils sont prévus depuis 2017.
Ils sont prévus depuis même avant, mais ils n'existent pas en France. Il n'y a pas un bracelet que vous trouvez.
Ils n'existent pas, mais on sait qu'ils existent. Ils étaient prévus, ils n'ont jamais été mis en place.
Non, il y a une loi qui a commencé à envisager la possibilité que ces bracelets existent après qu'il y ait condamnation. Ce n'est pas ça que nous voulons faire. Ce que nous voulons faire, c'est qu'avant même la condamnation, dès l'enquête, puisque Mathilde l'a très bien dit, c'est dès le moment de la plainte qu'il y a un danger encore accru. Dès ce moment-là, les femmes doivent pouvoir être protégées par ces bracelets. Et enfin, la question du dépôt de plainte. Nous voulons faire en sorte, et ce sera le cas dès le 25 novembre, que les femmes victimes de violences conjugales puissent porter plainte à l'hôpital, quand elles vont aux urgences, et plusieurs nous ont dit même qu'elles avaient été hospitalisées après parce que victimes de graves traumatismes et de graves coups et de séquelles. Quand elles sont à l'hôpital, elles doivent pouvoir porter plainte. Ça fera l'objet de conventions et ce sera possible dès le 25 novembre de cette année.
Et vous avez entendu les réponses, y compris les réponses judiciaires qui ont été faites. Mais attention, ils risquent de vous harceler, etc. Comment peut-on obliger, y compris côté magistrature, à ce qu'une femme n'entende plus jamais ce genre de choses lorsqu'elle a été frappée.
C'est exactement la raison de mon engagement et le sens de pourquoi je suis autant révoltée quand j'entends la situation des femmes et pourquoi je m'engage sur ce sujet depuis si longtemps. C'est parce que quand vous entendez des choses comme ça, par exemple, l'une des femmes pour lesquelles nous avons reçu sa famille au mois d'avril ou de mai, elle nous explique que sa propre avocate, sa meilleure amie nous explique que l'avocate de cette femme qui a été tuée lui a dit « Oui, mais là, vous faites des histoires, vous faites des conflits, vous allez apparaître comme celle qui ne veut pas la paix dans la famille, etc. » Ce discours-là, je n'en peux plus. Et c'est la raison pour laquelle nous communiquons beaucoup, parce que c'est un changement de mentalité qu'il faut opérer. Ce n'est pas normal de frapper sa femme et la femme victime de violences conjugales. Il faut le dire, il y a des gens qui trouvent ça normal. Je veux dire, on est dans une fatalité comme ça depuis l'Antiquité, nous disent les historiens, parce qu'on a considéré que c'était une fatalité et que c'était pas grave. Si on fait un petit peu d'histoire de minutes, le code Napoléon, il est construit sur la surdominance de l'homme comme pater familias, chef de famille, et qui a droit quasiment de faire ce qu'il entend sur sa femme et ses enfants.
Et
nous sommes dans l'héritage de cela.
Beaucoup de choses qui sont construites sur le patriarcat, on va dire ça.
Exactement.
Au sens large du terme. On parlait de magistrats à l'instant, on en a un en ligne qui est avec nous. Bonsoir Yves.
Bonsoir Madame Saltès.
On vous écoute.
Madame,
allez-y.
Bonsoir Madame la Ministre.
Bonsoir.
Sur les pratiques judiciaires, j'ai une interrogation. Ce qui a été fait pour la violence routière, c'est-à-dire contre la violence routière, pourrait aussi bien, j'allais dire, être peut-être aussi efficace en matière de violence conjugale. C'est la première remarque. Et la deuxième, c'est comment se fait-il qu'un corps judiciaire dans lequel le nombre de femmes est quand même très important et quand on entrée en magistrature, c'est 80%, et dans des postes déterminants pour ces questions dont vous parlez, il est très important également. Comment se fait-il que malgré cela, en dépit de cela, le fléau continue et ne recule pas?
Et ben donc, visiblement, vous n'avez pas la réponse non plus, et nous non plus, d'ailleurs, Yves Hélas. Mais du coup, est-ce que je peux avoir une question subsidiaire? On a beaucoup entendu de femmes ce soir, Yves, qui nous disent combien, y compris du côté de la magistrature, elles ont eu du mal à se faire entendre. Est-ce que vous l'avez vu, vous, pendant votre carrière professionnelle, des difficultés pour les entendre, pour les comprendre et pour aller dans le sens où elles auraient souhaité que la justice aille?
Oui, bien sûr, comme tout le monde. Et puis, j'allais dire... Il y a des bonnes et des mauvaises pratiques, et puis les bonnes et mauvaises pratiques ne sont pas toujours les mêmes selon les périodes. Je crois que les choses ont beaucoup évolué, pas suffisamment, et ce qu'a dit le Premier ministre est tout à fait exact. Ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'il y ait de telles différences d'un endroit à un autre, d'une région à une autre, et selon les personnalités. Que ça dépende d'une personnalité, c'est un problème. Que si quelqu'un met en place avec détermination des mesures... C'est remis en cause parce que cette personne change de poste, c'est un problème. Et quand je parle de la présence massive de femmes dans la magistrature, comment se fait-il qu'on n'ait pas utilisé? Parce que c'est-à-dire les femmes dans la magistrature sont d'excellentes professionnelles, elles seraient parfaitement capables, non seulement capables, mais elles l'ont montré dans certains endroits, de maîtriser tous les instruments dont vous parlez et de les pratiquer avec efficacité, avec l'autorité qu'il faut vis-à-vis de la gendarmerie et de la police, dans lesquelles il y a également des femmes qui seraient confortées par cette autorité, qui le sont parfois. Mais je dirais que ces bonnes pratiques ne se répandent pas suffisamment. Et je crois que, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat de financier et politique autour de cela, mais je crois vraiment que c'est pas simplement, le Premier ministre a raison, c'est pas simplement les millions ou les milliards qui comptent. C'est la détermination avec laquelle on procède. Tout ce qu'on entend, toutes les horreurs qu'on entend, y compris sur les pratiques et la manière dont vous dites les gens ne sont pas entendus, ça change tout à partir du moment où, là, c'est pas une question d'argent, c'est une question, d'état d'esprit, et puis d'état d'esprit sur la durée. Quitte à ce que des gens, au bout de un an ou deux ans d'activité aux prises avec des choses difficiles, ça irait un peu à l'heure, ils reviennent, mais en tout cas que tout ça soit organisé de telle sorte que ce soit des périodes de combat contre le fléau qui soient reconnues et puis qui soient, récompensées peut-être aussi. Peut-être qu'il faut...
Voilà, argent et état d'esprit, merci Yves pour vos remarques. Argent et état d'esprit, Marlène Schiappa, c'est aussi pour ça qu'on est là, nous les médias, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des associations, qu'elles sont dans la rue, qu'elles descendent, qu'il y a des mots qui viennent, qu'on emploie le mot de féminicide et qu'on a fini par l'employer d'une manière générale. Il y a tout un travail à faire aussi, au-delà même effectivement des mesures. Vous êtes d'accord avec ce que dit Yves?
Bien sûr, plusieurs choses. D'abord sur la réponse judiciaire, c'est pour ça qu'on met en place des procureurs spécialisés qui seront donc des référents sur ces sujets-là pour que ça ne dépende plus effectivement du bon vouloir ou de l'intérêt de tel ou tel procureur pour ce sujet. La détermination. Bon, la détermination, elle est là. Je crois que les gens qui soient d'accord ou en désaccord avec moi, qu'ils m'aiment bien ou pas, personne ne me dénie le fait d'être déterminé. Donc disons que c'est déjà un bon début. Et je crois que cette détermination, elle est vraiment collective et partagée par tous les gens qui travaillent sur ce sujet. Sur les moyens, moi je voudrais rappeler que contrairement à ce qui est dit ici et là, il y a eu plus 30% en moyenne d'augmentation pour les subventions aux associations. Et enfin, sur le mot féminicide, moi je suis très fière d'appartenir à un gouvernement qui est le premier à avoir utilisé le terme de féminicide dans le vocabulaire institutionnel. Le Premier ministre l'a porté à l'ONU, à l'Élysée. Le Président de la République, pardon, l'a porté à l'ONU, à l'Élysée. Le Premier ministre l'a dit à Matignon tout à l'heure. Je crois que c'est important de nommer les choses pour ce qu'elles sont.
Alors, on va encore parler d'argent, hein, mais on est un peu obligé. Allons-y. Parce que ça passe aussi par là et c'est bien aussi sûr. Ce que dit Sarah. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir. Bonsoir, je suis assistante sociale depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai travaillé sur plusieurs secteurs, l'hospitalier, maintenant je suis en association. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai été longuement confrontée à des femmes victimes de violences et que c'est quand même extrêmement difficile, même lorsqu'elles portent plainte. Déjà, faut qu'elles puissent arriver à porter plainte, faut qu'elles soient reçues dans un commissariat. Souvent, il faut les accompagner et c'est très 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 compliqué de mettre en place le chemin. Alors, déjà, il y a une part qui est psychique parce que c'est pas forcément évident, mais aussi un manque cruel d'associations, de travailleurs sociaux, de psychologues, de psychiatres aussi. Et je pense que ça, c'est très très important de le pointer, parce que ça fait plusieurs années qu'on entend parler de plans pour lutter contre les violences faites aux femmes. Moi, clairement, sur le terrain, j'ai vu très très peu d'évolution.
Eh bien, c'est tout ce qu'on imagine pour maintenant. Marlène Schiappa, comment on fait pour rassurer Sarah, dire que, contrairement à ce que disent certains, et on reçoit des mails qui disent ça, communication, pendant ce temps, les femmes continuent à être martyrisées et tuées, rien n'a changé depuis 30 ans, l'Espagne a très vite réagi, pourquoi sommes-nous si immobiles en France, etc. Comment on rassure Sarah pour dire que cette fois, c'est la bonne?
Moi, je suis pas là pour rassurer qui que ce soit.
Non,
je suis là pour faire du concret. Et justement, on peut pas à la fois me blâmer de trop communiquer et de faire de la démagogie et en même temps me demander d'en faire. Et je ne dis pas ça sur vous, mais je vais répondre très précisément sur la question soulevée sur l'accompagnement psy. L'État finance avec les collectivités 1284 travailleurs sociaux sur ce sujet. Christophe Castaner a lancé le recrutement de 73 psychologues dans les commissariats. Et enfin, nous prenons à bras-le-corps la question du soin psychotrauma avec l'ouverture de 10 unités expérimentales de soins en psychotrauma. Moi, je voudrais dire, je le rappelle, hein, parce que parfois on entend, on demande beaucoup à ce gouvernement et je le comprends. Ça fait 2 ans à peine que nous sommes là. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour lutter contre les violences conjugales, un fléau qui existe depuis l'Antiquité. Donc moi, je ne peux pas vous dire pourquoi ça n'a pas bougé depuis 30 ans, 50 ans, 100 ans. Je suis comptable de ce qui a été fait depuis 2 ans. Énormément de choses ont été faites et il faut que nous continuions ensemble. C'est le sens de ce Grenelle des violences conjugales.
Il y a beaucoup d'auditeurs sur franceinter.fr qui veulent revenir sur le premier témoignage, Marlène Schiappa, qu'on a entendu ensemble au sujet de cette femme qui est à l'île de la Réunion et qui est coincée en quelque sorte. On a cette femme qui nous dit, qui s'appelle Marion, qui nous dit « Je suis stupéfaite, aucune réponse de la part de Madame Schiappa au premier appel à l'aide. Qu'est-ce qu'on peut proposer à cette première intervenante? Peut-elle rester dans son île et attendre son conjoint ?» J'aimerais bien qu'on y revienne et ça nous permettra de boucler la boucle. Comment on peut faire avec un cas de ce type-là où cette femme est coincée dans son île?
Plusieurs choses. D'abord, je réponds dans le temps qui m'est imparti, question par question. Et avec plaisir, je reviens sur la question de Marie et son témoignage qui était extrêmement important. Il m'avait semblé apporter plusieurs réponses. Mais si vous voulez qu'on parle de la question de l'insularité particulièrement, c'est avec plaisir. Étant originaire de Corse, je connais bien ces problématiques. Et quand vous êtes sur une île, et particulièrement dans des territoires d'outre-mer... Pardon ?
C'est moins loin. La Corse.
C'est pas juste une question de moins loin. Les problèmes, tous les insulaires du monde vous diront qu'il y a une mentalité insulaire particulière et des habitudes particulières. Quand vous êtes fauché, loin ou pas loin, vous n'avez pas de quoi vous payer un billet d'avion, vous n'avez pas de quoi vous payer un billet de bateau. Et par exemple, quand vous êtes insulaire, vous avez moins accès. On parlait des tribunaux spécialisés tout à l'heure. Si on mettait en place des tribunaux spécialisés régionaux, probablement serait-il à Marseille. Ça veut dire que vous devriez prendre l'avion quand vous vivez à Ajaccio. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas retenu cette option, mais choisi celle des procureurs spécialisés.
Ça veut dire que juridiquement, on peut pas, je vais dire les choses comme ça, on ne peut pas mettre ce mari violent dans un avion, ou pas?
Ce qu'on peut faire, c'est, il faut voir, moi je ne connais pas le dossier, je ne peux pas sur France Inter refaire les dossiers à la place des magistrats. À un moment, je pense qu'il faut mettre aussi un peu de sérieux justement dans ces sujets-là. Si Marie souhaite me faire parvenir le dossier par votre intermédiaire, c'est évidemment avec grand plaisir, j'en traite des dizaines par jour avec mon équipe, ça nous prend un temps fou et c'est normal de le faire. Simplement, moi je ne peux pas me prononcer à la place d'un magistrat. Il faudrait qu'il y ait une ordonnance qu'il y ait une décision d'éloignement avec une ordonnance de protection. Je ne sais pas si elle a été délivrée ou pas. Je ne sais pas ce qu'elle concerne en termes de timing. Ce sont des cas très précis. Je ne veux pas à l'emporte-pièce, parce qu'on est à la radio, faire comme s'il y avait une solution miracle sur ce sujet.
En tout cas, Marie vous a entendu et peut-être qu'elle prendra contact avec vous. C'est ce qu'on espère. En tout cas,
je suis à disposition de tout le monde. Je fais des portes ouvertes après-demain, jeudi 5, pour toutes les familles de victimes de féminicide. Il suffit de s'inscrire grenelle@pm.gouv.fr. Je suis à la disposition des victimes et de leurs familles. Je suis là pour ça.
Et moi, je rappelle le numéro de téléphone quand même, le 3919. C'est important de le marteler et de le répéter. Merci beaucoup de votre présence, Marlène Schiappa. Merci à tous pour vos très nombreux appels. Dans un instant, c'est Laure Adler pour l'heure bleue, comme d'habitude. Pour l'heure, il est toujours 20h.